C'est dans leur sperme que doit résider le secret des Tleilaxu. Nos tests ont prouvé qu'il ne se transmet pas de manière génétiquement régulière. Il y a des échelons manquants. Tous les Tleilaxu que nous avons examinés jusqu'ici nous ont dissimulé leur personnalité profonde. Ils sont insensibles au son d'Ixienne. Le secret à tous les niveaux, telle est leur arme et leur défense ultime. Analyse du Bene Gesserit, code d'archive BTXX441WOR. Un matin de la quatrième année de Shiana au sanctuaire de Rakis, le rapport d'une espionne du temple fit briller une lueur d'intérêt dans les yeux d'une observatrice locale du Bene Gesserit.
« Sur la terrasse, dites-vous ? »
demanda la mère commandante de la citadelle de Rakis. Tamalan, la commandante, avait servi auparavant sur Gameux et savait mieux que quiconque l'importance de la partie que le Bene Gesserit était en train de jouer ici. L'arrivée de l'informatrice avait interrompu son déjeuner qui consistait en un fruit confit saupoudré de mélange. La messagère demeurait debout devant la table, tandis que Tamalan reprenait son repas tout en examinant encore le rapport.
« Sur la terrasse, oui, révérende mère. »
Tamalan leva les yeux vers son informatrice. Kipuna, native de Rakis, avait été formée comme acolyte pour ce genre de tâches locales délicates. Avalant une bouchée de son fruit confit, Tamalan insista.
« Ce sont bien ces mots exacts? Ramenez-les !»
Kipuna inclina affirmativement la tête. Elle comprenait le sens de la question. Est-ce que Shiana avait bien utilisé ce même ton impérieux? Tamalan parcourait le rapport à la recherche de ses points sensibles. Il était heureux que Kipuna le lui ait apporté en personne. Cette Rakienne avait des qualités que Tamalan respectait. Son visage potelé et ses cheveux flous l'apparentaient sans équivoque à la caste des prêtres, mais sa cervelle était moins floue que les cheveux qui la surmontaient.
Shiana n'était pas contente, dit Kipuna.
L'orni venait de passer devant sa terrasse et elle avait aperçu clairement les deux prisonniers enchaînés qu'il transportait. Elle savait qu'il les conduisait à la mort dans le désert. Tamalan posa le rapport sur la table en souriant.
Elle a donc ordonné qu'on lui ramène ses prisonniers. Je trouve son choix des termes fascinant.
Ramenez-les. C'est un ordre tout simple. En quoi peut-il être fascinant ?
Tamalan admirait la manière directe dont l'acolyte exprimait son intérêt. Elle ne voulait pas laisser passer une chance de comprendre la façon dont l'esprit d'une révérende mère fonctionnait.
« Ce n'est pas cette phrase-là qui m'intéresse, » dit-elle en se penchant sur le rapport pour lire à haute voix. « Vous êtes les serviteurs de Shaitan et non les serviteurs de ses serviteurs. Vous avez vu et entendu tout cela en personne ?»«
Oui, révérende mère. »
J'ai jugé important de vous remettre moi-même ce rapport, au cas où vous auriez d'autres questions à poser.
Elle l'appelle toujours Shaitan. Comme cela doit les irriter. Mais le tyran l'avait dit lui-même. Ils m'appelleront Shaitan.
J'ai lu les comptes rendus des découvertes de Dares Balat, dit Kipuna.
Et il n'y a pas eu de retard dans l'exécution de son ordre? Demanda Tamalan.
Juste le temps de transmettre le message à l'orni, révérende mère. Pas plus de quelques minutes.
Ainsi, il la surveille en permanence. Parfait. Est-ce que Shiana vous a donné l'impression qu'elle connaissait déjà les deux prisonniers? Y a-t-il eu un échange quelconque avec eux?
Je suis certaine qu'ils lui étaient totalement étrangers, révérende mère. Deux hommes ordinaires de basse caste, pauvrement vêtus et plutôt sales. Probablement issus des taudis crasseux de la périphérie.
Lorsque ces pouilleux ont été amenés devant elle, Shiana a donc ordonné qu'on leur retire leur chaîne et elle leur a parlé. Quels ont été ces mots exacts?
Vous êtes de mon peuple.
Splendide! S'écria Tamalan. Puis elle a demandé qu'on les emmène, qu'on leur donne un bain et des vêtements neufs et qu'on les libère ensuite. Dites-moi ce qu'il s'est passé après cela.
Elle a fait venir Tuek, qui s'est présenté avec trois de ses conseillers. La discussion a été animée.
Transmémorielle, s'il vous plaît. Faites-moi entendre cette conversation.
Kipuna ferma les yeux, prit une profonde inspiration et tomba aussitôt en transe mémorielle.
Shiana, je n'aime pas que vous donniez ceux de mon peuple en pâture à Shaitan.
Le conseiller Styros. Ils sont offerts en sacrifice à Shai-Hulud.
Shiana.
À Shaitan!
Elle tape du pied furieuse. Tuek. Ça suffit comme ça, Styros. Je ne veux plus entendre parler de cette dissension.
Shiana. Quand finirez-vous par apprendre?
Styros ouvre la bouche pour parler, mais Tuek le fait taire d'un regard et dit « Nous venons d'apprendre, enfant sacré. »
Shiana. « Je veux que... »«
Assez !» dit Tamalan.
L'acolyte rouvrit les yeux et attendit en silence. Au bout d'un moment, Tamalan ordonna
« Retournez à votre poste, Kipuna. Je suis très contente de vous. »«
Merci beaucoup, révérende mère. »
La consternation va se répandre chez les prêtres. Les moindres souhaits de Shiana sont obéis parce que Tuek croit en elle. Ils cesseront d'utiliser les vers comme moyen de punition.
Les deux captifs, vous êtes perspicace, Kipuna.
Oui, les deux captifs raconteront à tout le monde ce qui leur est arrivé. Leur récit sera déformé. Le peuple dira que Shiana le protège des prêtres.
N'est-ce pas précisément ce qu'elle fait, révérende mère?
Oui, mais considérez la chose du point de vue des prêtres. Ils renforceront les autres formes de châtiment. Fouet, privation de toutes sortes. Tandis que la peur de Shaitan diminuera grâce à Shiana, celle des prêtres augmentera.
Deux mois plus tard, le rapport de Tamalan au chapitre confirmait ses paroles. La diminution des rations, spécialement des rations d'eau, est devenue la forme de punition la plus employée, écrivait Tamalan. Des rumeurs de toutes sortes atteignent les régions les plus reculées de Rakis et se propageront probablement bientôt jusqu'aux planètes voisines. Elle considérait avec soin les implications de son rapport. De nombreuses sœurs le liraient, y compris celles qui n'étaient pas d'accord avec Taratsa. N'importe quelle révérende mère pourrait se faire une image précise de ce qui était en train de se passer sur Rakis. Beaucoup de gens y avaient assisté à l'arrivée de Shiana sur le dos d'un ver géant du désert. Les efforts des prêtres pour maintenir le secret sur cet événement étaient voués dès le début à l'échec. Les curiosités insatisfaites tendent à créer leurs propres réponses. Les mythes sont plus dangereux que la réalité. Les rapports précédents avaient parlé des enfants que Shiana faisait venir au temple comme compagnons de jeu. Les récits déformés que faisaient ces enfants étaient eux-mêmes considérablement enrichis par la rumeur populaire et ses apports intéressaient grandement le chapitre. Les deux captifs que l'on avait relâchés dans les rues avec les plus fins atours n'avaient pas peu contribué à fortifier la mythologie naissante. Le Bene Gesserit, expert dans l'art des mythes, possédait maintenant sur Rakis un réservoir d'énergie qui ne demandait qu'à être subtilement entretenu et canalisé.
Nous avons implanté dans la population la croyance en un espoir réalisé, écrivait Tamalan dans son rapport.
Et elle pensait en le relisant au slogan précédemment introduit par le Bene Gesserit. Shiana est celle que nous attendions depuis longtemps. La phrase était suffisamment simple pour qu'on puisse en amplifier la signification sans distorsions inacceptables. La fille de Shai-Hulud est venue châtier les prêtres. Celle-ci avait créé quelques problèmes. Un certain nombre de prêtres avaient trouvé la mort au détour d'une ruelle obscure comme conséquence de la ferveur populaire. Cela avait conduit la police sacerdotale à accentuer la pression sur la populace, avec tous les abus que cela entraînait habituellement. Tamalan repensa à la délégation qui avait demandé audience à Shiana en conséquence de l'agitation des conseillers de Tuek. Sept d'entre eux, avec Styros à leur tête, avaient interrompu le déjeuner de Shiana en compagnie d'un enfant des rues. Sachant qu'une telle chose pouvait arriver à n'importe quel moment, Tamalan avait pris ses dispositions et la scène avait été intégralement enregistrée pour elle en secret. Il ne manquait aucun mot, aucune expression du visage. Même les pensées étaient apparentes aux yeux exercés d'une révérende mère.
« Nous voulions faire un sacrifice à Shai-Hulud, » protestait Styros.
Tuek vous a déjà dit de ne pas discuter avec moi sur ce point, répliquait Shiana.
Et comme les prêtresses souriaient devant la déconfiture de Styros et des autres prêtres.
Mais Shai-Hulud, insistait Styros.
Shaitan,
corrigeait Shiana. Et son expression disait clairement, ces prêtres stupides ne savent donc rien.
Mais nous avons toujours pensé,
vous avez eu tort,
faisait Shiana en tapant du pied. Styros feignait alors le désir de s'instruire.
« Devons-nous croire que Shai-Hulud, le dieu fractionné, est en même temps Shaitan ?»«
Quel imbécile !» se disait Amalan. Même un enfant pouvait lui répondre, comme Shiana ne manqua pas de le faire.
« Tous les gamins des rues savent cela avant d'apprendre à marcher. »«
Comment savez-vous ce qu'il y a dans la tête d'un gamin des rues ?»
demanda habilement Styros.
« Vous êtes impie de douter de moi ?»
accusa Shiana.
C'était un argument dont elle avait appris à se servir souvent, sachant que la chose serait rapportée à Tuek et lui causerait des ennuis. Styros le savait aussi. Il attendait les yeux baissés tandis que Shiana, d'une voix lourde de patience, comme quelqu'un qui raconte une vieille fable à un enfant, lui expliquait que le ver géant du désert pouvait être habité aussi bien par un dieu que par un démon, ou par tous les deux à la fois, et que les humains ne pouvaient qu'accepter cela. Ce n'était pas à eux de décider de ces choses. Styros avait déjà envoyé des gens à la mort dans le désert pour avoir proféré de telles hérésies. Son expression, soigneusement enregistrée pour les analystes du Bene Gesserit, disait qu'il avait l'habitude de voir naître de tels concepts au fin fond de la fange des bas quartiers de Rakis. Mais à présent, il lui fallait tenir compte de l'insistance de Tuek à prétendre que tout ce qui sortait de la bouche de Shiana était parole d'évangile.
Tout en revoyant l'enregistrement, Tamalan se disait que tout se passait pour le mieux.
Elle l'écrivait dans son rapport au chapitre. Les doutes assiégeaient Styros, les doutes étaient partout, excepté au sein du peuple qui manifestait sa dévotion à Shiana. Les espions chargés de surveiller Tuek rapportaient que lui-même commençait à douter du bien fondé de sa décision d'expédier l'historien locuteur Dromind.
Avait-il raison de se défier d'elle ? Demandait le grand prêtre à son entourage.
Certainement pas, répondaient les sycophantes.
Qu'aurait-il pu dire d'autre ? Le grand prêtre ne pouvait se tromper quand il prenait de telles décisions. Dieu ne l'aurait jamais permis. Cependant, Shiana n'arrangeait pas les choses. Elle expédiait au limbe les décisions de plus d'un grand prêtre avant Tuek. La réévaluation était à l'ordre du jour. Styros ne cessait de harceler le grand prêtre.
Que savons-nous d'elle au juste ?
Tamalan possédait l'enregistrement complet de leur dernière conversation à ce sujet. Elle s'était poursuivie tard dans la nuit dans les appartements privés de Tuek, où il se croyait à l'abri des oreilles indiscrètes. Confortablement installé dans de rares et moelleux canisièges, des fruits confits épicés de mélange à portée de la main. Les images holo que possédait Tamalan montraient un brilleur qui flottait sur ses suspenseurs à proximité des deux hommes, sa puissance réduite pour épargner leurs yeux fatigués.
Peut-être que cette première épreuve dans le désert avec un marteleur n'était pas celle qu'il lui fallait, disait Styros.
C'était une formulation habile. Tuek n'était pas réputé pour avoir l'esprit particulièrement compliqué.
Pas celle qu'il lui fallait ? Que voulez-vous dire par là ? Dieu souhaite peut-être que nous lui fassions subir d'autres épreuves. Mais vous l'avez vu vous-même parler à Dieu dans le désert à plusieurs reprises.
C'est exact, fit Styros, bondissant visiblement sur l'occasion attendue.
Si elle est capable de demeurer indemne en présence de Dieu, pourquoi ne pourrait-elle enseigner à d'autres la manière d'accomplir cela ?
Vous savez bien qu'elle se met en colère quand on le lui suggère.
Peut-être n'avons-nous pas su aborder le problème de la bonne façon.
Styros, et si l'enfant avait raison ? Nous servons le Dieu fractionné. Pourquoi Dieu se fractionnerait-il ? N'est-ce pas là l'épreuve ultime de Dieu ?
L'expression de Styros indiquait que c'était là exactement le genre de gymnastique mentale que sa faction redoutait. Il essaya de détourner la conversation, mais le grand prêtre n'était pas d'humeur à renoncer à son plongeon dans la métaphysique.
L'épreuve ultime, médita Tuek, c'est de savoir reconnaître le bien dans le mal et le mal dans le bien.
La consternation se peignit sur le visage de Styros. Tuek était loin suprême de Dieu. Aucun prêtre n'avait le droit de remettre cela en question. Si Tuek s'avisait de rendre public de pareilles conceptions, c'était toute l'autorité des prêtres qui risquait d'être ébranlée dans ses fondements mêmes. Il était clair que Styros était en train de se demander si l'heure n'était pas venue d'emmener le grand prêtre dans le désert avec un marteleur.
Loin de moi l'idée de débattre de conceptions si profondes avec mon grand prêtre,
finit par dire Styros.
Mais j'ai peut-être une suggestion à faire qui lèverait bien des doutes.
Proposez toujours, dit Tuek.
Certains instruments pourraient être discrètement glissés dans ses vêtements. Nous pourrions ainsi écouter ce qu'elle dit quand elle s'adresse à...
Vous croyez que Dieu ignorerait ce que nous ferions?
Jamais pareille idée ne m'a traversé l'esprit.
Je refuse de la faire conduire encore dans le désert.
Mais si l'idée venait d'elle-même,
murmura Styros avec un sourire onctueux.
Elle l'a déjà fait plusieurs fois.
Pas récemment. Il semble qu'elle ne ressente plus comme avant le besoin de consulter Dieu.
Ne pourrions-nous pas le lui suggérer discrètement?
C'est-à-dire?
Shianna, il y a longtemps que vous n'avez pas parlé avec votre père. Ne languissez-vous pas d'être privé de sa présence?
Pour une suggestion discrète, c'est un peu lourd.
Je ne faisais que donner un exemple de ce que nous pourrions...
Styros, cet enfant sacré n'est pas une idiote. Elle dialogue avec Dieu. Il pourrait nous punir cruellement de notre présomption.
Dieu ne l'a-t-il pas mise en notre présence pour que nous puissions l'étudier?
Ce genre de propos était, aux yeux de Tuek, beaucoup trop proche de l'hérésie de Dromind. Il considéra sombrement Styros.
Ce que je voulais dire, fit ce dernier battant en retraite, c'est que Dieu veut sûrement nous apprendre des choses par son intermédiaire.
Tuek lui-même avait dit à peu près la même chose en plusieurs occasions, sans jamais entendre dans sa voix le curieux écho des propos de Dromind.
Il n'est pas question de faire pression sur elle, ni de la soumettre à de nouvelles épreuves, déclara le grand prêtre.
Le ciel nous en préserve, répondit Styros. Je serai l'ombre de la prudence, et tout ce que j'apprendrai sur l'enfant sacré vous sera immédiatement rapporté.
Tuek hocha silencieusement la tête. Il avait ses propres moyens de s'assurer que Styros ne lui mentait pas. Les épreuves et les pressions discrètes qui s'ensuivirent furent immédiatement rapportées au chapitre par Tamalan et ses subordonnés. Shianna a l'air de plus en plus pensif ces jours-ci, écrivait Tamalan dans un rapport. Pour les révérendes mères de Rakis, comme pour celles à qui s'adressaient les rapports, cet air pensif avait une signification évidente. Les antécédents de Shianna avaient été déduits depuis longtemps. Les attaques de Styros donnaient à l'enfant la nostalgie des siens. Shianna se gardait d'y faire la moindre allusion, mais il était clair qu'elle pensait souvent au village de pionniers d'où elle était originaire. Malgré les peurs et les dangers dont était faite la vie là-bas, c'était sans doute la période où elle avait été la plus heureuse. Elle devait se rappeler les rires, les tiges à prédire le temps que l'on plantait dans les sables, la chasse aux scorpions dans les recoins du village, la recherche des fragments d'épices parmi les dunes. D'après les incursions répétées de Shianna dans le même secteur, les sœurs avaient localisé approximativement le village perdu et reconstitué les causes de sa disparition. Shianna contemplait souvent une vieille carte de Tuek accrochée à l'un des murs de ses appartements. Comme s'y attendait Tamalan, un matin, l'enfant désigna sur la carte un endroit où elle était déjà allée souvent.
« Conduisez-moi là-bas, » ordonna-t-elle.
On fit venir immédiatement un orni. Tandis que les prêtres écoutaient avidement à bord d'un autre orni qui tournait hors de vue au-dessus de sa tête, Shianna avait affronté une fois de plus son vengeur des sables. Tamalan et ses conseillères, branchées sur le circuit des prêtres, suivaient la scène avec non moins d'avidité. Rien ne suggérait qu'un village avait existé au milieu des dunes battues par le vent où Shianna s'était fait déposer. Elle utilisa cette fois-ci un marteleur. C'était une idée de Styros, qu'il avait soigneusement initié au maniement de cet antique moyen d'appeler le dieu fractionné. Un verre ne tarda pas à arriver. Tamalan voyait sur son écran le monstre dont elle estimait la taille à 50 mètres, ce qui était une petite moyenne. Shianna se tenait à 3 mètres à peine de la gueule béante. Le grondement de la fournaise intérieure du verre était nettement audible dans les écouteurs.
« Me diras-tu pourquoi tu as fait ça ?»
demanda Shianna.
Elle ne bronchait pas devant l'haleine ardente du ver géant. Le sable craquait sous le poids du monstre, ce dont elle ne paraissait pas s'apercevoir.
« Réponds-moi »
cria-t-elle.
Aucune voix ne sortit du ver.
Mais Shiana pencha la tête comme pour écouter.
« Alors, retourne d'où tu viens, »
dit-elle avec un geste impérieux. Docilement, le ver recula et fit demi-tour avant de s'éloigner dans le désert. Des jours durant, tandis que les sœurs se délectaient à les espionner, les prêtres avaient débattu cette brève rencontre. Il n'était pas possible de questionner Shiana sans qu'elle apprenne qu'elle avait été épiée. Comme toujours, elle refusait de dire quoi que ce soit sur ses incursions dans le désert. Styros continuait à la travailler discrètement. Le résultat était ce que le Bene Gesserit escomptait. À l'improviste, Shiana disait certains jours en se réveillant « Aujourd'hui, je vais dans le désert ». Quelquefois, elle utilisait un marteleur. Souvent, elle dansait pour les attirer. Loin des regards de Kin ou de tout autre endroit habité, les vers ne manquaient jamais d'arriver à ses rendez-vous. Plantée devant les monstres, elle leur parlait tandis que des oreilles avides écoutaient. Tamalan était fascinée par la quantité de témoignages qui passaient dans ses mains avant d'aboutir au chapitre.
« Je devrais vous détester, » disait Shiana dans l'un d'eux.
Quel remue-ménage cela causa chez les prêtres. Tuek voulait ouvrir publiquement le débat. Devrions-nous tous détester le dieu fractionné en même temps que nous l'aimons? Styros avait écarté cette suggestion en faisant valoir que les desseins de Dieu n'étaient pas encore très clairs. Shiana demandait à l'un des monstres
« Veux-tu me laisser monter sur toi ?»
Mais quand elle s'était rapprochée, le ver avait reculé sans la laisser grimper. En une autre occasion, elle avait demandé «
Dois-je rester encore parmi les prêtres ?»
Ce même ver avait été l'objet d'une avalanche de questions intéressantes.
« Où vont les gens quand tu les manges ? Pourquoi cherche-t-on à me tromper ? Faut-il que je punisse les mauvais prêtres ?»
Tamalan avait ri de bon cœur en prenant connaissance de cette dernière question. Elle pensait à l'émoi que cela allait causer dans l'entourage de Tuek. Effectivement, ses espions ne manquèrent pas de lui signaler la consternation des prêtres. « Mais comment lui répond-il ? » demanda un jour Tuek. « Est-ce que quelqu'un a entendu parler Dieu ?»«
Peut-être qu'il répond directement dans sa tête ?»
hasarda l'un des conseillers. « Ce doit être cela, » fit Tuek, sautant sur l'occasion. « Nous essaierons de lui demander ce que Dieu lui dicte de faire. » Shiana refusa cependant de se laisser entraîner dans ce genre de discussion. « Elle sait évaluer avec précision les limites de son pouvoir, » écrivait Tamalan dans son rapport. « Elle va moins souvent dans le désert à présent, en dépit des pressions exercées par Styros. Comme nous l'avions prévu, son intérêt s'estompe. » L'excitation et la peur la conduisent seulement jusqu'à un certain point avant de s'effacer. Elle a cependant appris l'existence d'une injonction efficace « Allez-vous-en !» Pour le Bene Gesserit, c'était une borne importante dans l'évolution des choses. Si le dieu fractionné lui-même obéissait sans hésiter, ce n'était pas à un simple prêtre ni à une simple prêtresse de lui disputer le droit d'émettre un tel commandement.
« Les prêtres sont en train d'édifier des tours dans le désert, » écrivait Tamalan. « Ils veulent disposer d'endroits plus sûrs pour observer Shiana quand elle se rend là-bas. » Le Bene Gesserit avait également prévu cette évolution et des pressions discrètes avaient même été exercées pour accélérer le programme. Chaque tour disposait de son piège avant, de son équipe d'entretien, de sa barrière d'eau, de ses jardins et d'autres éléments de civilisation. Chacune représentait un avant-poste qui élargissait le domaine de la communauté humaine de Rakis au détriment des vers géants. Les villages de pionniers n'avaient plus de nécessité et le mérite de leur suppression revint encore à Shiana aux yeux de la populace. « Elle est notre prêtresse », entendait-on partout. Tuek et ses conseillers étaient empalés sur une girouette. « Shaitan et Shaihulud dans le même corps ?» Styros vivait dans la crainte perpétuelle que Tuek n'érige cela en dogme. Ses conseillers rejetèrent finalement la suggestion d'éliminer le grand prêtre. Une autre proposition selon laquelle la prêtresse Shiana aurait pu avoir un accident fatal fut accueillie avec horreur par tous, y compris Styros qui jugeait le risque trop grand.
« Si nous ôtions cette épine, Dieu nous enverrait peut-être quelque chose de bien plus terrible. » disait-il en mettant ceux qui l'écoutaient en garde.
Les plus anciens livres n'ont-ils pas prédit que nous serions guidés un jour par un petit enfant ?
Styros n'était que le dernier en date de ceux qui voyaient en Shyana quelque chose de plus qu'une simple mortelle. Il était évident que l'entourage de l'enfant sacré, en particulier Kanya, lui vouait une admiration et une dévotion à toute épreuve. Elle était si charmante, si ingénue, si perceptive et brillante. Beaucoup remarquaient que cette admiration pour Shyana touchait même Tuek. Le Bene Gesserit avait un nom pour ce phénomène qu'il connaissait de longue date, l'effet de dévotion cumulée. Tamalan notait dans son rapport les profonds changements qui étaient en train de s'opérer sur Rakis. Partout sur la planète, les gens commençaient à adresser leurs prières à Shyana au lieu de Shaitan ou même de Shai-Hulud. « Ils voient que Shyana intercède pour les plus faibles », écrivait Tamalan. Le processus est familier. Tout se déroule selon les instructions reçues. Quand allez-vous envoyer le Gola ?